franceinter.fr.
Demain matin, nous avons notre première séance de psychanalyse.
Mais ça va pas la tête.
Il faut vaincre tes terreurs.
Ça demande psychologie, doigté, souplesse.
Réchiche ta pensée.
Je pense que t'es un ouf, toi.
Ah, je suis zinzin. Je suis zinzin.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça va pas la tête, une émission réalisée par François Audouin, préparée par Agathe Taillandier et Lilith Sahakian, avec l'aide de Liane Sylvestre. Dans son infinie sagesse, la vie ne ménage pas beaucoup de surprises. Dès le début de la pièce, chacun feint d'ignorer l'issue fatale, et jusqu'au rideau final, nous courons après un insaisissable bonheur. Pétri de désir, nous désirons sans fin, mais comme l'écrivait ce bon vieux Schopenhauer, rien n'y fait, notre vie oscille comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Mais une fois ce triste constat fait, il est possible, rassurez-vous, de se détacher et de se libérer de certaines illusions afin d'accéder à une forme de félicité. Nous vous dirons comment, en compagnie de nos invités, comment Schopenhauer peut nous aider à mieux affronter la vie, loin du pessimisme radical auquel est trop souvent réduit le philosophe allemand. Et puis nous nous intéresserons à deux écrivains fortement influencés par Schopenhauer, Michel Houellebecq et Guy de Maupassant, qui comparaient Schopenhauer à un saccageur de rêves.
France Inter, Ali Rebi.
Voyons, ça ne va pas bien.
Ça va pas la tête.
Je m'ennuie, Richard.
Mais je croyais que vous aimiez ça, l'ennui.
Ouais, mais plus maintenant. Là, je m'ennuie, ça m'ennuie.
Vous dansez plus?
Non.
Vous savez ce que Rousseau a dit? C'est pour parvenir au repos que l'homme travaille. Mais c'est peut-être pour ça que votre ennui ne vous amuse plus.
Un extrait de Libre et assoupi, un film de Benjamin Gedge, le héros du film qui s'ennuie, l'ennui qui révèle la vacuité de notre existence pour Schopenhauer, mais pas que lui. Bonjour Céline Belloc.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes professeur de philosophie dans un lycée français à Singapour.
Exactement.
Et vous avez publié chez Erol Lâcher prise avec Schopenhauer. Qui était en quelques mots Schopenhauer? Comment présenter l'auteur du monde comme représentation et volonté à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler?
Alors, Arthur Schopenhauer est un philosophe, comme vous l'avez dit, qualifié de pessimiste. Il, pour le situer dans le temps, il naît en 1788, il meurt en 1860, il a écrit son œuvre majeure à l'âge de 30 ans. À 30 ans, il publie Le Monde comme volonté, comme représentation, où il décrit, et c'est pour cela qu'on va le qualifier de pessimiste, où il décrit les souffrances et l'ennui dont l'être humain est affublé et dont il ne peut pas en vivant, il ne peut pas sortir, en fait. Il tourne le dos, Schopenhauer tourne le dos, en fait, à la philosophie antique et à cette volonté de chercher une vie bonne, un mieux vivre. C'est impossible, c'est contradictoire.
Bonjour Frédéric Schifter.
Bonjour.
En duplex depuis France Bleu à Bayonne, vous êtes philosophe, vous avez publié un dictionnaire chic de philosophie chez Écriture. Dans ce dictionnaire, vous écrivez que Schopenhauer est un philosophe qui n'intéresse personne. Pourtant, son art d'avoir toujours raison se vend comme des petits pains en librairie.
Oui, mais ce qu'on aime chez Schopenhauer, ce sont ses écrits dits mineurs. Et dès lors, on a plutôt une vision anecdotique du personnage ou du philosophe. Quand je dis anecdotique, je parle de sa philosophie, bien évidemment. Mais je connais peu de monde qui ait lu Le Monde comme volonté, comme représentation.
Je le disais, Maupassant appelait Schopenhauer le saccageur de rêves, et vous l'aimez pour ça, Schopenhauer?
Oui, bien sûr. Vous savez, moi, depuis ma plus tendre enfance, j'ai horreur qu'on me raconte des contes bleus. J'ai toujours détesté qu'on me dise que le Père Noël existe, sachant pertinemment au fond de moi qu'il n'existait pas. Et je pense que Schopenhauer, c'est le philosophe qui nous dit tout le temps que le Père Noël n'existe pas.
Bonjour Alain Guyard.
Bonjour.
Prof de philo, écrivain en duplex de France Bleu à Périgueux. Alain Guyard, vous avez notamment publié aux dilettantes 33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons. Pour vous, Schopenhauer, c'est un sale type, hein, une enflure de la dernière espèce.
Bah écoutez, oui, il suffit de faire un petit tour sur sa biographie pour découvrir qu'on est quand même face à un sacré bonhomme qui... qui n'a pas hésité une seconde, par exemple, à prêter ses petites lunettes de théâtre pour la soldatesque massée sur son balcon afin de défourailler et de vider les fusils sur ceux-là même qui dressaient des barricades en bas de sa rue. Et c'est le même Gugus qui, par exemple, nous invitait effectivement au détachement, à la sérénité, au lâcher-prise, mais qui, en même temps, allait régulièrement au bordel. Et avait un petit carnet dans lequel il marquait pour chacune des filles qui fréquentait ses spécialités coquines. Mais il marquait tout ça en code pour que on ne sache pas exactement combien d'argent il dépensait pour la chose. Mais en même temps, ça en fait un type assez touchant et sympathique, si vous voulez, parce que c'est tout l'intérêt du philosophe, c'est de pas être un homme sage. L'homme sage, il est truffé de bonnes qualités et par conséquent, il est assez débectant parce qu'il est absolument loin de notre humanité. Et quand on est face à un mec comme Schopenhauer, qui est effectivement traversé de contradictions, bah, il est assez proche de nous. Et par conséquent, il mérite vraiment qu'on le lise parce que il a à se dépêtrer avec une existence qui est à la fois touchante et désespérante, et c'est un petit peu notre lot commun. Donc il faut savoir que c'est un sale type, et ce faisant, et ben désolé, mais il nous ressemble. Et c'est pourquoi il peut aussi nous causer.
Et vous lui décernez une mention spéciale car c'est un philosophe cruel, notamment sur les choses de l'amour et de la sexualité.
Absolument, absolument. Vous savez comment disent les Latins, hein, et quand ils parlent de cruauté, ils parlent de crudité. C'est le même mot en latin. Et je crois qu'il y a cette volonté du côté de Schopenhauer de montrer que on peut voir les choses telles qu'elles sont, crûment, sans qu'elles soient cuites et recuites et apprêtées pour des palais délicats. Et quand on les voit crûment, eh ben, on découvre qu'il y a de la cruauté. Et il y en a aussi dans l'amour, hein. Rien de plus grotesque et de stupide que cette expression du fameux « je t'aime », hein, qui est servie à toutes les sauces, c'est le cas de le dire, qui est vraiment recuite. Et en fait, tout le travail de Schopenhauer sera de montrer que quand on dit « je t'aime », en fait, il n'y a pas de « je », il n'y a pas de « t » apostrophe, il n'y a même pas d'amour, d'ailleurs, il n'y a qu'une espèce de puissant torrent absolument aveugle, instinctuel, quel vouloir vivre comme ça, qui traverse les individus et qui les pousse à se télescoper. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre autant de fleurs bleues dans les braguettes que vous voudrez, mais ça évitera pas de voir la détresse de la condition des amoureux, qui ne sont rien d'autre que des gens qui vont faire la bête à deux dos parce que l'espèce les y pousse.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du magazine Lire. Il y a quoi la une de Lire en ce moment?
À la lune de Lire, vous avez les 50 livres qu'il faut lire absolument cet été, donc profitez-en si vous êtes à la plage.
Alors vous reviendrez sur deux auteurs fortement influencés par Schopenhauer.
Deux auteurs, Maupassant tout d'abord, qui est fin du 19e siècle, donc pas très loin de notre ami Arthur, et puis beaucoup plus récent, Michel Houellebecq.
Et son extension du domaine de la lutte, hein.
Extension du domaine de la lutte, et puis la possibilité d'une île aussi, qui est très marquée par cette philosophie.
N'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête. Oh, you know me from all my videos. Isn't it time we hit the road? You want me, that's all you need to know. Wish you were mine, I got to go. Oh, you miss me, our love's in stereo. Isn't it finer in mono? Oh, you feel me, I ring from head to toe. You say goodbye, I say hello. Witchcraft, she's Miss Benedicta, and bought the cat suit. I used to raise in the roof and telling the truth. I thought I wasn't, but I was losing my mind. Oh, when she showed me how the night was supposed to sound, I realized that then whenever I shut my eyes, well, there she hovered, looking like $1 million in a briefcase or a duffel bag by high noon tomorrow. Just make sure you're not followed. And since you're such a stunner, send us something sunset color. Let's make love to one another. Run for cover. Oh, you know, that's how it goes. Mini Mansion, c'est Alex Turner interprété Vertigo.
Mais ça va pas la tête.
France Inter, Ali Rebbi.
Ça me dérange pas que tu sois timbré.
Ça va pas la tête.
9h20 sur France Inter et je vous propose d'essayer de nous libérer de la souffrance et de l'ennui, vaste programme, avec l'aide de ce bon vieux Schopenhauer, avec trois philosophes, Céline Belloc, Frédéric Schifter et Alain Guyard, et en compagnie du journaliste Julien Bisson.
Un philosophe allemand qui ne croyait pas à l'histoire était mort en 1860, persuadé que si l'univers est en apparence jeu sans but, il est en réalité, comme chose en soi, volonté absolument libre. Les concepts qu'il avait mis en place pouvaient encore se reconnaître dans la trame de la vie moderne. Ils avaient toutefois subi de telles métamorphoses qu'on pouvait s'interroger sur leur validité. La logique du supermarché induisait nécessairement un éparpillement des désirs. L'homme du supermarché ne pouvait organiquement être l'homme d'une seule volonté, d'un seul désir, d'où une certaine dépression du vouloir chez l'homme contemporain.
Un extrait de l'adaptation d'Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, réalisé par Philippe Harel. Houellebecq, nous le disions tout à l'heure, très influencé par Schopenhauer. Quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus concernant la philosophie de Schopenhauer, Céline Belloc?
C'est le fait qu'on limite la philosophie de Schopenhauer à son pessimisme. En fait, on ne lit de l'œuvre de Schopenhauer que les deux premiers livres. Alors certes, nous sommes esclaves du vouloir vivre. Le bonheur est impossible, le bonheur entendu comme satisfaction de nos désirs. Mais il y a quand même un autre bonheur possible qui est le repos, la sérénité, en devenant un petit peu spectateur de soi-même.
Frédéric Schifter, le cliché, l'idée reçue qui vous agace le plus concernant Schopenhauer?
Pas faire la guerre aux clichés, on n'en sortirait plus. Mais je pense que quand même, Schopenhauer, ce n'est pas... quand on dit de lui qu'il est pessimiste, ce n'est pas une qualification extérieure. C'est lui-même qui se définit ainsi. Et d'ailleurs, il traite les optimistes de tête plate, c'est tout dire. Donc, il se range délibérément dans le pessimisme et... Tous ces livres le répètent, argumentent en ce sens. Alors effectivement, il y a la troisième partie du monde comme volonté, comme représentation, qui pourrait laisser à penser que la contemplation esthétique, c'est-à-dire la contemplation des œuvres d'art, la jouissance de leur spectacle, nous délivrerait des souffrances que nous inflige le vouloir vivre. Il me semble que ce n'est pas une délivrance, ce n'est qu'une rémission. C'est-à-dire que le temps que nous lisons un livre, effectivement, nous sommes un peu dégagés de nos affaires quotidiennes. Le temps que nous regardons un film aussi, le temps que nous écoutons de la musique, quoique chez Schopenhauer, la musique est un statut particulier. Mais enfin, la contemplation esthétique, l'expérience esthétique, effectivement, nous apporte de temps en temps, comme ça, le temps de cette contemplation, une sorte de repos, de mise entre parenthèses des souffrances du monde. Enfin, ça ne dure qu'un bref instant, et après, nous repartons à notre ennui et à nos souffrances.
Alain Guyard, depuis Périgueux.
Oui.
Le cliché qui vous agace le plus sur Schopenhauer?
Je pense que c'est un petit peu ce qui revient sans cesse, c'est qu'en fait on dit du vieil Arthur qu'il était pessimiste, et je crois que il faut plutôt dire que quiconque est pessimiste ou quiconque est optimiste est idéaliste et est pas foutu de voir le réel en face. Et ce que l'on dit de Schopenhauer en disant qu'il est pessimiste, je pense que c'est vraiment une erreur, puisqu'en fait il a cette exigence qui est celle du réaliste. Hein. Il veut s'accorder avec le monde tel qu'il va. Il veut s'accorder avec le monde en tant qu'il est. Il est cette volonté, quoi. Et je crois que ça a une conséquence qui est importante, c'est que. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a chez Schopenhauer une dimension un petit peu libératoire comme ça. Moi, je dirais que c'est pas un maître illusionniste comme le sont les pessimistes qui sont travaillés par le ressentiment ou le dégoût, mais c'est plutôt un désillusionniste, voyez. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Hein. On est face à quelqu'un qui, lorsqu'on va le lire, ne va pas nous donner une vision pessimiste du monde, mais va nous dépouiller, hein, va nous ramener à l'os. Hein. C'est vraiment un travail d'arasement, d'ébarbement. Et lire Schopenhauer, c'est pas ajouter du pessimisme à sa vie, mais c'est déblayer toutes ces visions superfétatoires, qu'elles soient optimiste ou pessimiste pour se trouver comme ça
alors,
dans un état de nudité face au réel.
Alors venons-en à l'une des grandes idées de Schopenhauer, la volonté. Céline Belloc, nous sommes mus par une force qui nous dépasse, hein, la volonté, le vouloir vivre. Cette volonté n'a rien à voir avec la volonté du langage commun.
Alors oui, la volonté ou le vouloir vivre, c'est le concept central de la philosophie de Schopenhauer. Ce n'est pas un concept, c'est une chose en soi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ben, le vouloir vivre, c'est la matière dont est fait le monde. Nous sommes tous, toute chose est une manifestation du vouloir vivre. Mon corps est le vouloir vivre rendu visible, mais aussi l'animal, la plante, la pierre, les forces dans la nature sont des manifestations du vouloir vivre, force d'attraction, force de répulsion, le plus, le moins dans les forces électriques, les forces de résistance, tout est manifestation en fait d'une seule chose qui est le vouloir vivre. Tout dans le monde est vouloir vivre. Or, de ce vouloir vivre, j'en suis l'esclave, comme tout homme, j'en suis l'esclave, et le vouloir vivre, deuxième chose qui est très importante, sinon on ne peut pas comprendre la voie de délivrance que propose Schopenhauer, le vouloir vivre cherche à travers l'homme à se représenter lui-même, d'où le monde comme volonté et comme représentation. La représentation est seconde. Donc la volonté cherche à se représenter elle-même, à se connaître, à se comprendre elle-même.
Frédéric Schifter, nous sommes tous agités donc par des pulsions aveugles qui nous dépassent.
Oui, en effet. Mais je reviens quand même sur le terme de pessimisme. Encore une fois, je vois à quel point c'est un terme qui fait horreur, hein, alors que ce philosophe s'en réclame de lui-même. Bon, écoute, c'est une sorte de dénégation qui me laisse toujours un peu pantois. Alors oui, effectivement, nous sommes mus par des forces aveugles. Et par conséquent, pour Schopenhauer, il n'y a pas la moindre possibilité d'être libre. D'accord ? Nous sommes des pantins. Nous sommes mus par la volonté ou le vouloir vivre, par cette espèce d'élan. Et lorsque nous figurons que nous sommes libres, c'est tout simplement la représentation que nous avons de notre vouloir, et toute représentation est, pour Schopenhauer, illusoire. Et la première des illusions, c'est de considérer que lorsque nous nous mouvons, c'est par un libre décret de notre volonté ou de notre raison. Par là même, toute sagesse qui consisterait à penser que nous pouvons nous libérer du vouloir vivre est une illusion. Et c'est en cela que Schopenhauer est un destructeur d'illusions, un saccageur de rêves, à commencer par celui des philosophes qui pourraient penser, les philosophes optimistes, qui diraient « allons, vous pouvez faire quelque chose pour vous-même, soyez des providences pour vous-même, soyez libres, hein, vous avez une raison, une volonté propre qui serait illusoirement dégagée du vouloir vivre et vous pouvez accéder à la sagesse, au détachement, etc. » Pour Schopenhauer, tout cela, effectivement, ce sont que des fadaises, des billevesées. Et encore une fois, c'est pour lui, c'est des discours, ce sont ces termes, des discours de tête plate.
Céline Belloc.
Oui, je voulais préciser, suite aussi à ce que vient de dire Frédéric Schifter, que ce vouloir vivre, parce que souvent on le ramène à notre propre volonté ou à l'image de notre propre volonté, notre volonté elle veut quelque chose, il y a un objet de la volonté, mais ce vouloir vivre chez Schopenhauer n'a aucun objet. C'est-à-dire, c'est un vouloir vivre purement aveugle, ce sont des forces aveugles, c'est un effort qui va nulle part, c'est un vouloir vivre absurde, contradictoire. Voilà.
Et la raison dans tout ça, notre libre arbitre, notre chère liberté, Alain Guyard.
Bah écoutez, faut croire encore à la mouche qui pète en plein vol si vous voulez croire au libre arbitre. Hein. Tout le travail de Schopenhauer, ça va consister justement à montrer que là où il y a du libre arbitre, il y a croyance à une espèce de, comment dire, de, sans doute c'est quelque chose qui a à voir avec un héritage d'un dogme théologique qui laisse entendre que l'homme il est là comme une espèce d'étincelle déposée dans le monde mais séparée du monde et qu'aurait une espèce de pouvoir souverain sur lui-même, alors que si vous voulez on est complètement emporté par Alors, effectivement, le mot est très emmerdant en français parce que vouloir vivre, il y a le mot volonté. Volonté, ça laisse entendre qu'il y aurait un libre arbitre et qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de la décision du sujet. Mais tout ça, c'est des couillonnades, va nous expliquer Schopenhauer, parce que il y a effectivement, je sais pas comment trop la signaler, moi, la signifier. Disons, il y a une puissance dynamique à caractère métaphysique qui nous travaille et qui nous emporte tous absolument. Si vous voulez, voyez le film de Romero, La Nuit des Morts Vivants.
Oui.
Quoi. Et alors, il y a une espèce de terreur des vivants parce qu'ils voient d'un coup comme ça déambuler tous ces cadavres qui viennent frapper aux portes, arracher les volets et boulotter les jeunes pucelles qui prennent des douches. Et en fait, c'est un petit peu la condition des hommes, la condition des morts. C'est-à-dire que ces morts dans la Nuit des Morts Vivants de Romero, qui n'arrêtent pas de se déplacer, poussés qu'ils sont par l'appétit de cerveau et de viande fraîche, eh ben, c'est un petit peu notre situation, notre condition existentielle à nous autres les hommes. On est portés par des puissances qui nous mettent en mouvement, qui nous font ainsi gesticuler, marionnettiser notre existence. On s'imagine qu'on a décidé de se déplacer, mais est-ce qu'un zombie décide de se déplacer quand il y a l'appel de la chair fraîche ? Ben, pas du tout. Donc, voyez, cher Ali, on est un peu les morts vivants et Arthur Schopenhauer et notre Romero, quoi.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Céline Belloc, Schopenhauer ne dit pas autre chose. Le caractère d'un homme ne change jamais. Le caractère est fixé une fois pour toutes par le vouloir vivre.
Oui, il montre bien que l'homme ne change pas, l'homme ne s'améliore pas, malgré les expériences que nous pouvons vivre et les efforts que nous faisons pour nous améliorer, nous ne changeons pas. La seule chose qui change, et on va l'expliquer à travers un exemple, c'est nos motifs d'action, en fait. Il donne l'exemple, je donne dans le livre l'exemple de Mission.
De Roland Joffé.
De Roland Joffé, exactement. Où le personnage joué par Robert De Niro, Mendoza, est en fait un esclavagiste
mercenaire.
Il tue son frère pour
être
amoureuse, voilà, par jalousie. Donc il exprime là son caractère, c'est-à-dire un caractère passionné, mettant l'amour en priorité. Puis il est récupéré par la bienveillance d'un jésuite. Il se convertit donc, il est amené chez les Guaranis, il se convertit aux vœux de chasteté, aux vœux d'obéissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Guaranis vont être attaqués, c'est l'histoire du film, vont être attaqués par les Portugais. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, par amour pour les Guaranis, par passion, justement, il se met à attaquer les Portugais, à les tuer, voilà. Alors que ses vœux de chasteté, d'obéissance, auraient dû le pousser à autre chose. Donc, les motifs changent. C'est-à-dire, il le fait pour les Guaranis, il le fait par amour pour les Guaranis et non pas pour ses intérêts particuliers, mais le caractère de l'homme, son tempérament, la passion, l'amour en avant ne change pas. On ne change pas. Et Schopenhauer dit même que plus on devient clairvoyant sur soi, plus on se rend compte en fait à quel point on est méchant et on l'a toujours été.
Frédéric Schifter, l'expérience ne nous fait pas progresser, ne fait pas progresser notre caractère ?
L'expérience n'est que de l'expérience accumulée et l'accumulation ne fait que... Comment je pourrais résumer ça ? On ne change pas, on ne fait qu'aggraver son cas. D'un mot, si je devais résumer toute l'anthropologie ou toute la psychologie plutôt de Schopenhauer, je dirais voilà. Donc le caractère, nous sommes déterminés. Alors par quantité de déterminisme justement dont nous n'avons pas conscience, et c'est voilà pourquoi encore une fois c'est pure illusion de s'imaginer avec un optimisme stupide que nous pourrions changer. Quand quelqu'un vous dit « Allez, tu peux changer, prends conscience de tes défauts, écoute tes désirs, change tes désirs plutôt que l'ordre du monde, etc. » Enfin, c'est tout ça, toute la philosophie stoïcienne, la philosophie épicurienne, tout ça pour Schopenhauer, et naturellement, c'est du blabla. C'est vouloir être un Père Noël pour soi-même. Et encore une fois, le Père Noël n'existe pas.
N'hésitez pas à témoigner, à réagir sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond the doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea.
George Benson, Beyond the Sea.
Monsieur, vous vous ennuyez? Le temps passe si lentement que vous avez l'impression de faire du surplace? Ne restez plus dans l'expectative. Utilisez le mini-marteau Schopenhauer. Grâce à un simple coup du mini-marteau Schopenhauer sur n'importe quelle partie de votre corps, c'est l'assurance de quitter instantanément votre état d'ennui pour celui de la souffrance. Salle d'attente, guichet Pôle emploi, Sécu, La Poste, grâce à sa petite taille, vous emportez votre mini-marteau Schopenhauer partout et passez de l'ennui à la souffrance quand vous voulez. Aïe ! Attention, le mini-marteau Schopenhauer est considéré comme une arme de catégorie 4, à consommer avec modération.
Ça va pas la tête ?
Pastille signée François Audouin avec la voix d'Éric Oswald et une mention spéciale pour les haïs de François Audouin. 9h39 sur France Inter et je vous propose d'essayer de nous libérer de la souffrance et de l'ennui avec l'aide de ce bon vieux Schopenhauer, avec trois philosophes, Céline Belloc, Frédéric Schifter et Alain Guyard, et avec le journaliste Julien Bisson.
Comment les choses étaient-elles passées? À quel moment de ma vie aurais-je pu bifurquer vers le bonheur? Adolescent par exemple, j'étais fasciné par les sciences. particulier par les nouveaux concepts développés en mécanique quantique. Finalement, je n'avais pas été très loin dans ce domaine. Il est vrai que les conditions réelles de survie dans le monde m'avaient beaucoup accaparé. Il est probable aussi que je n'aurais peut-être pas été en mesure de me comporter différemment si les choses s'étaient présentées autrement. À tout bien considérer, comme disait Schopenhauer, je ne m'en étais pas trop mal tiré.
Un nouvel extrait de l'adaptation d'Extension du domaine de la lutte de Houellebecq, réalisé par Philippe Harel. Houellebecq, admirateur de Schopenhauer. Le héros de Houellebecq, qui ne s'en est pas trop mal tiré dans la vie, une vie qui ressemble à une entreprise commerciale ne couvrant pas ses frais, pour citer Schopenhauer. Céline Belloc, Schopenhauer s'est assigné comme tâche de mettre un terme à nos souffrances. Mais pour lui, nos souffrances sont inéluctables. Et pourtant, nous croyons tous à des lendemains heureux.
Oui, les souffrances sont inéluctables, mais c'est une très bonne nouvelle. Je voulais revenir sur ce que dit Houellebecq. Il dit au départ de l'extrait, à quel moment aurais-je pu bifurquer vers le bonheur ? Et on pense tous que finalement, être heureux, ça dépend d'une décision qu'on aurait faite, d'un choix qu'on aurait fait. Si on est malheureux, c'est qu'on a fait de mauvais choix, ou on n'est pas la personne que nous devrions être pour réussir notre vie et mériter ce bonheur. Or, ce que montre Schopenhauer, c'est que c'est une idée absurde de penser que nous avons des choix à faire, nous ne pouvons pas ne pas souffrir. Voilà, il y a une nécessité de la souffrance. À partir du moment où on vit, où on est dans le vouloir vivre, nous souffrons. Et ces souffrances, elles commencent déjà dans les désirs, dans l'acte de désirer.
Frédéric Schifter, pour Schopenhauer, vivre heureux, c'est vivre le moins malheureux possible. Pour lui, le bonheur est négatif. Nous sentons la douleur, mais non l'absence de douleur. Pour Schopenhauer, tout plaisir est la délivrance d'une douleur préalable.
Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est bon, en même temps, c'est une c'est un peu une lapalissade, je reconnais, mais c'est toujours bon de rappeler les choses telles qu'elles sont. Souvent, on est obligé que de les qualifier, enfin de les définir par des ou les décrire par des lapalissades. Mais c'est vrai, je me rends compte que j'étais heureux lorsque, par exemple, que j'étais libre de mes mouvements lorsque je me retrouve en prison. En prison, me voilà privé de mes... Alors, effectivement, je me rends compte que voilà, j'étais heureux quand j'étais libre de mes mouvements. Je me rends compte que j'étais heureux lorsque j'étais en bonne santé, maintenant que je suis alité, malade, ne pouvant plus rien faire, etc. Donc, quand le bonheur est là, ou en disant l'absence de souffrance est là, nous ne la remarquons pas, parce que justement, la vie, c'est la souffrance, d'accord ? C'est l'essence même de la vie. Et quand, tout d'un coup, il y a cette rémission, cette suspension, cette espèce de miracle d'une absence de souffrance, mais qui n'est pas due à nous, on n'y peut rien, c'est le hasard de la vie. Alors, quand nous ne souffrons pas, nous ne nous rendons pas compte. Ce dont nous nous rendons compte, c'est toujours de la souffrance. Voilà. Ou alors, quand la souffrance a cessé, alors nous nous ennuyons. C'est un autre type de souffrance.
On y vient, Frédéric Schifter.
C'est une souffrance psychologique. C'est pas une souffrance physique, c'est une souffrance psychologique et qui, parfois, peut être tout aussi douloureuse que la souffrance physique. Gainsbourg disait, dans un couple, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. Moi, je rajouterais que celui qui est le plus à plaindre n'est pas celui qu'on croit.
Alain Guyard, ce qui nous fait souffrir, c'est de désirer sans fin. Nous sommes éternellement insatisfaits. Le désir, c'est un petit dictateur qui nous agite sans cesse. Une fois assouvi, le désir renaît sans fin, notamment en matière sexuelle.
Oui, vous avez parfaitement raison. Je crois que j'ai affaire à un connaisseur, cher Ali. Mais je voudrais rebondir d'abord sur ce qui a été dit par Frédéric à l'instant même, parce que ça m'a évoqué une situation que j'ai vécue il y a quelques années quand j'étais au Beaumette. Vous m'avez fait l'honneur de m'appeler professeur de philosophie, mais mes élèves sont des genres de lascars assez marioles. Et je faisais là-bas de la philosophie, et une fois, il m'est arrivé comme ça de poser la question à mon auditoire en prison, donc c'était quoi pour eux la belle vie. Et il y a un garçon qui avait une trentaine d'années comme ça qui m'avait dit, moi le plus beau jour de ma vie, le moment qui a été le plus heureux, c'est la première fois où j'ai été libéré. Et il a raconté ce moment où sortant de la prison et étant à la porte, cette grosse porte, la prison des Baumettes là-haut, là sur les hauteurs de Marseille, et ben enfin il a pu vraiment jouir de la liberté. Vous savez, c'est comme quand on serre la paluche de quelqu'un et puis on demande ça va et vous dites oui ça va, et en fait le ça va c'est un état où vous sentez rien, et quand ça va pas vous avez mal à la tête, vous avez mal à l'estomac. Et ben mon Gugus, c'était la même chose. Au fond, le moment le plus savoureux et le plus heureux de sa vie, c'était pas, on va dire, un moment positif de jouissance, mais c'était le moment de l'arrêt de la douleur et de la souffrance. C'était l'arrêt de la prison, et quand il sort enfin de la maison d'arrêt, là il découvre ce que c'est que le bonheur. Donc on n'est pas sur un bonheur positif, hein. Et Schopenhauer, c'est ça. Ce type, hein, qui avait un petit bac -10, quoi. Même le seul bac qu'il connaissait, c'était la brigade anticriminalité, certainement. Et ben, ce type, il avait une intuition très sûre de ce que Schopenhauer voulait dire lorsqu'il nous apprend effectivement que le meilleur moyen d'être malheureux, c'est de désirer le bonheur, et c'est de désirer des sensations comme ça qui nous feraient croire que là, on pourrait s'installer dans le plaisir et la jouissance.
Céline Belloc.
Et alors effectivement, vous preniez l'exemple de la vie sexuelle, la sexualité, bah c'est du même ordre, hein.
Céline Belloc, on est
dans une société qui effectivement nous invite à désirer sans fin, et notamment l'un des désirs qui est considéré comme le désir qui est la condition de la réalisation de la jouissance et donc du bonheur, c'est le désir sexuel. Et le travail de Schopenhauer, c'est de nous dire que là, bah, on se fait bien attraper. Parce qu'en définitive, là encore, la grande affaire, c'est peut-être se délivrer de cette nouvelle imposture.
Céline Belloc.
Alors, il n'y a peut-être pas que les désirs sexuels qui nous travaillent, mais aussi les ambitions de l'ego, en fait, ce besoin qu'on a de dominer, ce besoin qu'on a de se faire reconnaître, ce besoin qu'on a de prouver en permanence en société notre valeur, ce qu'il décrit très bien dans Pararega Paralipomena, cette œuvre où il met en scène la difficulté des relations sociales. Alors tout cela va faire qu'on n'est jamais, en effet, le désir est insatiable, et on n'est de toute façon jamais satisfait, parce qu'une fois qu'on obtient l'objet de notre désir, mais en fait on voulait plus, on voulait autre chose, on voulait encore mieux, faire mieux que le voisin. Donc on ne sort jamais de cette souffrance.
Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire.
Non, j'écris.
Un extrait de Pierrot le Fou de Godard avec Anna Karina qui s'ennuie. Quand nous avons assouvi nos désirs, eh bien nous ennuyons, Céline Belloc. Hein. Et cet ennui qui révèle la vacuité de notre existence.
Voilà, ce que dit là Anna Karina, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment la volonté inemployée. C'est-à-dire que s'ennuyer, c'est encore être dans le vouloir vivre, mais on ne sait pas quel objet mettre à notre volonté. Donc c'est une volonté inemployée, une volonté sans objet, mais qui veut vouloir quelque chose. Donc on est encore dans la souffrance.
Alors, quelles sont les voies de la libération, Frédéric Schifter, pour se libérer des souffrances et de l'ennui? Vous l'évoquiez tout à l'heure, la contemplation esthétique, notamment.
Oui, mais enfin, nous restons dans une impasse, hein, quand même, hein, avec Schopenhauer. Encore une fois, la contemplation esthétique, enfin, disons l'expérience esthétique. Alors, déjà, il y a toute une théorie schopenhauerienne de l'art qui nous dit qu'au fond alors l'artiste, c'est celui chez qui le vouloir vivre est malade. Enfin, l'homme est un animal malade de toute façon, mais disons que l'artiste est encore plus malade que les autres humains, en cela que chez lui le vouloir vivre est moins impérieux que la représentation. Le philistin, l'homme ordinaire, le crétin, pour Schopenhauer, c'est celui chez qui le vouloir vivre domine en tout, d'accord ? Bon, très bien, c'est le supporter de football. L'esthète, lui, chez lui, il est un peu comme ça, rikiki, du point de vue du vouloir vivre. Il ne lui reste que ce qui lui permet de regarder le monde autour de lui et d'en rendre compte. Et c'est ainsi qu'il crée des œuvres d'art. Et bien sûr, il les propose au regard de ceux qui, un peu comme lui, accidentés du vouloir vivre, eh bien, sont des lecteurs, des mélomanes, ou des cinéphiles aujourd'hui, etc. Et l'intérêt d'être un handicapé du vouloir vivre, c'est de pouvoir le contempler justement dans son essence. C'est un paradoxe, hein, chez Schopenhauer. C'est-à-dire que l'art, au fond, c'est un quatrième genre de connaissance, pour dire les choses à la manière un peu de Spinoza. C'est-à-dire que moins je veux, moins je suis quelqu'un de puissant dans la vie, mieux je vois le monde tel qu'il est. Moins j'ai de volonté en moi, mieux je la vois et mieux je peux en rendre compte. Et il se passe quelque chose d'assez paradoxal, c'est que la contemplation de l'essence de toute chose, c'est-à-dire du vouloir, cette contemplation, eh bien, suscite chez le spectateur une sorte de plaisir, c'est le plaisir esthétique, qui, momentanément, l'anesthésie de tout le reste de ses souffrances.
Céline Belloc.
Oui, en plus
de... Les voies de la libération.
Tout à fait. En plus de cette expérience esthétique face au beau ou sublime, qui ne sont, comme l'a très bien rappelé Frédéric Schifter, qui ne sont que des suspensions de la volonté, il y a des voies plus complexes, plus utiles, en fait, pour suspendre la volonté, qui sont la pitié et l'ascétisme. Alors, en quoi consiste exactement la pitié ? Ça consiste à reconnaître, en fait, que ma souffrance, c'est aussi la souffrance d'autrui, que c'est la même souffrance, qu'il soit victime ou qu'il soit mon bourreau, ce qui n'est pas facile, eh bien, il souffre de la même manière que moi. Et lorsque je perçois, en fait, cette souffrance généralisée dont est victime et la fourmi et l'homme, eh bien, j'éprouve une forme de pitié. C'est-à-dire, je regarde le monde en tant que spectateur.
N'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête. Christine and the Queens, les paradis perdus.
Ça va pas la tête ?
La seule façon d'arriver à surmonter cette phobie, c'est d'éconner !
Ali Rebbi, ça va pas la tête ? Sur France Inter.
9h54 et on s'intéresse encore quelques minutes à la philosophie de Schopenhauer.
Je ne comprends pas concrètement comment les gens arrivent à vivre. J'ai l'impression que tout le monde devrait être malheureux. Vous comprenez ? Nous vivons dans un monde tellement simple. Il y a un système basé sur la domination, l'argent, la peur. Un système masculin et un système féminin basé sur la séduction, le sexe. Et puis c'est tout. D'ailleurs, avec les réalistes de la fin du 19e siècle, Maupassant a cru qu'il n'y avait que cela. Et ceci l'a conduit jusqu'à la folie furieuse.
Au fond des tout. La folie de Maupassant n'est qu'un stade classique du développement de la syphilis. Tout être humain normal accepte les deux systèmes dont vous parlez.
Non. Si Maupassant est devenu fou, c'est qu'il avait une conscience aiguë de la matière, du néant et de la mort. Qu'il n'avait conscience que de cela.
Nouvel extrait d'extension du domaine de la lutte de Philippe Harel, adapté de Houellebecq. Julien Bisson, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Lire. Deux auteurs ont donc été fortement influencés par Schopenhauer. D'abord Maupassant,
imprégné par cette philosophie pessimiste. Maupassant qui est donc le créateur de cette expression, le plus grand saccageur de rêves qui est passé sur Terre, que vous aviez cité en début d'émission, et qui a d'ailleurs consacré une nouvelle, baptisée Auprès d'un mort à Schopenhauer. Cette philosophie de Schopenhauer chez Maupassant, elle se retrouve notamment dans Bel Ami. Vous savez, Bel Ami, c'est cette satire un peu du Paris journalistique du 19e siècle à travers un personnage qui est le personnage de Norbert de Varenne, qui est l'un des masques de Maupassant dans le livre. Norbert de Varenne qui adresse au héros Georges Duroy une grande tirade sur la vie et sur la mort, une tirade un peu pessimiste puisqu'il compare la vie à une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet, on se sent heureux, mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin qui est la mort. Et dans cette tirade, il démonte les bonheurs illusoires que la vie peut présenter, l'amour, l'argent, la gloire, la religion. Il montre que tout cela est vain et finira par être englouti. Et en plus, il nous dit que le problème, c'est d'en avoir conscience et que les gens médiocres souffrent moins. Il dit le problème, c'est la disproportion, je cite, entre l'état de notre intelligence agrandie et les conditions immuables de notre vie. Là, on est tout à fait dans Schopenhauer.
Et vous le disiez, Schopenhauer a fait l'objet d'une nouvelle de Maupassant.
Une nouvelle auprès d'un mort, où il s'amuse aussi du culte qui est fait sur Schopenhauer et justement des mauvaises interprétations qui peuvent être faites de sa philosophie.
Et je recommande, à propos justement de Maupassant et de Schopenhauer, la saine lecture de philosophie de Maupassant de mon camarade Jean Salem. Vous approuvez, Frédéric Schifter, cette lecture ?
De Jean Salem ?
Oui.
Ah oui, c'est un livre extraordinaire. Oui, c'est un livre que je recommande chaudement parce que effectivement, Jean Salem prend tous les thèmes de la littérature de Maupassant et il en dégage à chaque fois le pessimisme foncier. Je m'excuse pour le mot, j'ai l'impression qu'il choque beaucoup, mais le pessimisme foncier, le fond schopenhauerien. Enfin, le toxique schopenhauerien irrigue la littérature de Maupassant.
Julien Bisson, Michel Houellebecq affirme que Schopenhauer est l'un de ses maîtres à penser. Il suffit de lire ou de relire son chef-d'œuvre Extension du domaine de la lutte.
Oui, Michel Houellebecq ne se prive jamais de rappeler son admiration et sa dette à Schopenhauer. Dans Extension du domaine de la lutte, c'est très intéressant car ce qu'il nous montre, c'est que l'homme, dans la société néolibérale, agrandit volontairement le domaine de ses besoins, donc qu'il ne peut qu'en résulter une extension de ses souffrances. Mais il n'y a pas que dans Extension du domaine de la lutte que Schopenhauer apparaît. Je pense que dans La possibilité du Nil, notamment, le héros Daniel, plutôt anti-héros, est lui aussi un personnage très empreint de cette philosophie qui est empreint de dégoût pour le monde, pour le genre humain, et qui finit par trouver une forme de salut dans le clonage, qui est une façon aussi de se mettre hors de la sexualité. Mais il n'y a pas que ça, à mon avis, que la dimension de la souffrance qui rapproche Schopenhauer et Houellebecq. Il y a aussi cette dimension que vous évoquiez, Céline, la dimension de la pitié et de la compassion. C'est une dimension très importante chez Houellebecq, la compassion, qui me semble très présente, notamment dans ce livre. Dernière petite chose, il y a eu une exposition tirée de La carte et le territoire, son roman qui a eu le prix Goncourt. Cette exposition avait pour nom Le monde comme volonté et comme papier peint.
Pas mal. Merci à tous d'être venus dans Ça n'a pas la tête. Merci beaucoup Céline Belloc. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Lâcher prise avec Schopenhauer, absolument passionnant. Lâcher prise avec Schopenhauer, publié chez Erol. Merci Alain Guyard depuis France Bleu, Périgueux. Nous remercions nos amis de France Bleu. Il faut lire 33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons aux dilettantes. Merci beaucoup Frédéric Schifter depuis Bayonne. Il faut lire le dictionnaire chic de philosophie publié chez Écriture. Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver toutes les références citées sur l'appli France Inter ou sur franceinter.fr à la page Ça va pas la tête. À la technique ce matin, il y avait David Federman.